Voilà, depuis 2 semaines, nous sommes dans la joie de la résurrection. Nous avons fêté Pâques, qui est la fête la plus importante pour notre foi chrétienne. Et nous allons voir que dès le début du christianisme, eh bien, croire que Jésus était relevé de la mort et vivant n'a pas été de soi. Je vous propose une image. En équitation, c'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué, il y a une compétition qui s'appelle le concours complet. Et dans cette compétition, il y a une épreuve de cross. Le cross, c'est une épreuve qui se fait en extérieur, avec des obstacles naturels, des obstacles construits, qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins difficiles. Et dans ces compétitions, en général, il y en a un qui est le plus difficile de tous, et on l'appelle le juge de paix. Parce que ça passe ou ça passe pas. Et pour moi, la résurrection, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme le juge de paix. C'est un peu, voilà, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? C'est un peu ce qui se pose à nous et nous comment, et moi comment je me positionne par rapport à ça. Parce que la confession de base de la foi chrétienne, c'est de croire que Jésus est mort et ressuscité. Et en fait, on va se rendre compte que aussi bien autrefois qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui on a tout le développement scientifique, mais la mort reste quand même un mystère, et autrefois aussi, eh bien, c'était impossible de penser qu'un homme allait ressusciter des morts. Alors on va regarder juste dans les 4 évangiles comment cette incrédulité est décrite. Chez Matthieu, quand Jésus apparaît à ses disciples en Galilée, la fin de l'évangile de Matthieu dit « Donc, quand les disciples le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Voilà, les disciples, ils ont le Jésus en face, mais franchement, ils ne savent pas. Dans l'évangile de Marc, Jésus s'adresse à ses disciples au bout d'un moment et leur reproche leur incrédulité parce que l'évangile dit « Ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vus ressusciter. » Et puis dans l'évangile de Jean, bien sûr, il y a ce personnage connu de Thomas qui est la figure par excellence de l'incrédule qui ne croit que s'il peut toucher le ressuscité. Et donc l'évangile de Luc que nous avons entendu a pas mal de similitudes avec Jean, mais Jean a été écrit après Luc. Dans ce passage, Jésus arrive sans crier gare. Il se tient au milieu des disciples, il leur parle et leur donne la paix. Et la première réaction des disciples, eh bien, c'est la peur, l'effroi. Et il y a même un mot grec utilisé dans ce passage, on dit que les disciples sont terrifiés. Et le texte continue en nous disant, ils croient être en présence d'un esprit. Alors Jésus, comme si de rien n'était, il leur dit pourquoi vous êtes étonnés, pourquoi vous êtes troublés, pourquoi vous avez des débats intérieurs. C'est le mot grec dialogismoi, des débats intérieurs, des dialogues intérieurs. Forcément, revoir quelqu'un qui a été mort, c'est pas forcément habituel, on peut pas forcément s'y préparer et on comprend bien les disciples. Alors ensuite, Jésus va présenter ses mains et ses pieds. Qu'est-ce qu'il y a dans ses mains et ses pieds? Eh bien, il y a les marques, des clous. Et en fait, il fallait vraiment comprendre l'importance. Il fallait comprendre que c'est le même homme, en fait. C'est le même homme qui a été crucifié, c'est le même homme que les disciples voient vivant devant eux. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit. Et Jésus insiste là-dessus, il dit, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Et il les invite à le toucher, il dit, c'est bien moi. Alors encore une grande surprise. Mais on sent que pour Jésus, c'est fondamental de se faire reconnaître comme l'homme qui a été leur compagnon de vie pendant environ 3 ans, celui qui a marché avec eux, qui a fait des miracles, qui leur a parlé, etc., mais aussi celui qui a été trahi, celui qui a été capturé et crucifié. Dans cette deuxième étape, les disciples ont encore du mal à y croire et on dit ils sont sous l'effet de la joie et en même temps ils sont incrédules. En français, on a une expression qui dit « c'est trop beau pour être vrai ». Alors Jésus va leur demander un autre geste, un geste familier qu'il a fait avec eux pendant ces années. Il leur demande « Avez-vous ici de quoi manger ?» Il lui offre un morceau de poisson grillé. Il le prend et le mange sous leurs yeux. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Là, ce sera le dernier signe que Jésus leur donne pour qu'ils croient. La nourriture, eh bien, le dernier repas de Jésus a été une communion, un partage. Et la communion, en fait, peut encore se vivre avec cet homme Jésus, un peu différemment, bien sûr. Jésus est vivant. Et en fait, Jésus insiste pour qu'on comprenne qu'il y a un enjeu de croire qu'il est vraiment apparu vivant à ses disciples, avant de remonter vers le Père. Parce qu'ensuite, il ne sera présent qu'en esprit. Il ne sera pas un esprit, mais il sera présent spirituellement. Et évidemment, même pour nous, c'est difficile à comprendre. Ça a donné lieu à des incompréhensions. Et il n'est pas honteux pour nous de se dire que c'est normal que le doute fasse partie de notre foi. Cet événement de la résurrection est tellement fondamental que l'apôtre Paul va fixer toute sa théologie à partir de là, sans citer les paroles de Jésus, sans parler de sa vie avec les disciples. Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi notre foi. » Et il continue, « Mais Christ est ressuscité des morts. » Et il ajoute qu'il est le premier à nous ouvrir la voie de la résurrection et de la vie éternelle. Oui, la résurrection de Jésus ne nous laisse pas dans le vide de la mort. Nous pouvons croire que nous ressusciterons nous aussi et que nous serons avec lui dans le royaume de Dieu. Nous pouvons croire que les proches que nous aimons et qui meurent, eh bien, vont ressusciter aussi. La question que l'apôtre Paul va ensuite poser, c'est une question que j'ai aussi souvent entendue, c'est la question du comment. Alors là, évidemment, une question sans réponse, mais qui voilà, on a besoin de comprendre, c'est normal, on a des esprits intelligents et cartésiens. Parce qu'en effet, les apparitions de Jésus, il montre qu'il a un corps, il mange. Alors après, je ne vous raconte pas toutes les diversités d'interprétations de tous les théologiens qui se sont demandé comment est-ce qu'il digérait. Ça fait partie des choses que je ne développerai pas, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mais du moment qu'il peut apparaître, disparaître, son corps n'est pas comme le nôtre. Et je pense qu'il faut accepter que c'est un mystère, que c'est le mystère de Dieu et que ça lui appartient, ça appartient à Dieu. Par contre, il faut essayer de voir quel est le sens. Qu'est-ce qui nous appartient de croire à nous? Alors, l'apôtre Paul essaye une ébauche de direction, de réflexion, en tout cas, avec les mots et les concepts qui sont à sa disposition. Et donc, il va parler de ce mot que je voulais qu'on entende tout à l'heure, qui est le corps spirituel. Pour moi, c'est une association qui est vraiment intéressante. Parce que souvent, la résurrection, il y a des personnes qui sont bloquées sur l'expression qu'on va dire tout à l'heure dans la confession de foi, et j'ai fait exprès de faire en sorte qu'on va la dire tout à l'heure, la confession de foi du symbole des apôtres, parce qu'on parle de la résurrection de la chair. Alors là, ça nous bloque complètement, parce que pour nous, la chair, c'est de la viande. Mais en hébreu, eh bien, il y a un mot, un seul mot pour dire la chair ou le corps, c'est bassar. Et dans la compréhension hébraïque, eh bien, il faut savoir que cela comprend le tout de la personne, aussi bien la personne physique que la personne psychique. Quand Dieu, par exemple, fait alliance avec Noé, il dit « C'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Donc tous les humains et puis aussi les animaux. Et dans le Nouveau Testament, cette compréhension du corps continue à vouloir dire l'être tout entier. Malheureusement, la pensée grecque a séparé beaucoup les choses à une certaine époque entre la question physique et la question de l'esprit. Mais il faut vraiment se redire que ça forme un tout pour la pensée biblique. Pourquoi on a insisté comme ça? Eh bien, cette insistance montre qu'il ne fallait pas oublier que Jésus n'est pas un pur esprit. Jésus a été un être de chair et de sang comme nous. C'est attesté historiquement, et c'est clair qu'au niveau de la résurrection, c'est une question de foi, on ne peut pas la prouver. Mais il faut savoir que Jésus a été un être avec tout ce qui fait une vie humaine, avec ses émotions, sa joie, sa tristesse, sa colère. Voilà, tout ce qui fait l'être humain. Mais il faut aussi savoir que le mot « chair », dans cette plus ancienne confession de foi que nous avons et que nous dirons tout à l'heure, eh bien, a fait problème dès le départ. Et c'est sans doute cela pour cela que le deuxième credo de Nicée en 425, donc on en a parlé en début d'année parce qu'on fête cette année les anniversaire de ce credo. 1700, voilà, 1700 ans de ce credo de Nicée, Constantinople. Et en fait, ce credo, il a changé. Il n'a pas mis résurrection de la chair, il a mis résurrection des morts. C'était plus simple. On aurait pu mettre aussi la résurrection des corps. Mais en fait, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de dire les morts ressuscitent. On ne sait pas trop comment, mais on nous promet ce corps spirituel. Alors, je me suis finalement posé la question, qu'est-ce que ça nous apporte d'être un corps spirituel ou de croire qu'on pourrait être un corps spirituel ? Tout d'abord, on peut se dire que le corps est le lieu de la relation. Il n'existe pas de relation sans corps, quel qu'il soit. Nous ne sommes pas des esprits, mais des êtres limités par notre corps et mortels. D'où l'importance de prendre soin de nos corps et de les accepter aussi, comme ils sont, comme nous sommes. Et grâce à nos corps, nous pouvons nous rencontrer, nous parler, nous aimer ou bien nous détester. Oui, ce corps spirituel est un prolongement dans la vie éternelle de ce que nous pouvons vivre parfois, déjà, par moments, dans notre vie. Cette qualité de présence, où parfois on se dit là, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est un état mystérieux. Mais quand je lis les témoignages des personnes qui ont été ranimées d'une mort imminente, les expériences de EMI, il y a maintenant pas mal de livres qui ont été écrits là-dessus. Et en fait, je fais juste une constatation que cela pourrait correspondre à ce corps spirituel dont Paul nous parle. Et en fait, une des caractéristiques de ce corps spirituel quand on arrive là-haut, c'est de pouvoir se reconnaître les uns les autres. Je me souviens d'une dame dans une paroisse où j'étais avant, qui avait perdu son mari et qui était très inquiète. Elle me disait, mais comment, quand j'arriverai là-haut, je reconnaîtrai mon mari? Et je pense que le corps spirituel peut servir à ça, reconnaître qui nous accueille là-haut parce qu'on est accueilli là-haut. Alors, pour le moment, nous sommes sur la terre. Et nous sommes sur la terre pour apprendre à aimer. Nous sommes sur la terre pour apprendre à témoigner de cette bonne nouvelle que non, la vie ne s'arrête pas avec la mort, que la mort n'est qu'un passage. Et nous sommes là pour en témoigner en parole et en acte. Et si Jésus nous a ouvert la voie d'une vie nouvelle et éternelle, eh bien c'est pour nous assurer qu'il est vivant à nos côtés et que nous restions dans l'espérance de notre propre résurrection. Alors tout à l'heure, nous prendrons la Sainte Cène. C'est un moment où Jésus nous dit « Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. » Et c'est aussi un moment où nous pourrons vivre ce repas en sa présence spirituelle pour prendre des forces et continuer notre chemin ici. Jésus nous en fait la promesse. Il sera toujours avec nous, que nous soyons vivants ou morts. Ainsi, nous pouvons recevoir sa paix. Amen.